Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue à Bruxelles où les 28 se sont retrouvés pour un sommet européen sous haute tension et nous sommes maintenant au Conseil européen car ce Conseil a beaucoup débattu des questions migratoires et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité qui connaît bien ces questions. Bonjour Georges Katrougalos, vous êtes en effet le ministre grec délégué aux affaires européennes.
Vous êtes l'une des valeurs sûres du gouvernement d'Alexis Tsipras. Après la victoire de Syriza en janvier 2015, vous êtes d'abord nommé au ministère de l'Intérieur, puis vous prenez le portefeuille du Travail. Et finalement, donc, vous héritez du titre de ministre délégué aux affaires européennes, des affaires que vous connaissez de longue date en tant qu'expert du droit public. Et en 2014, vous avez été aussi élu au Parlement européen sur la liste de Syriza.
Alors c'est vrai que l'Europe a déjà été plusieurs fois au bord du gouffre, vous en savez quelque chose en Grèce, sur la question de la dette à l'époque, mais aujourd'hui on a l'impression que c'est sur la question migratoire. Est-ce que l'Europe va y survivre à cette question prégnante?
Il y a des divisions profondes, mais pour être honnête, il ne s'agit pas d'une crise migratoire, exactement parce que les flux migratoires maintenant sont par 96% moins élevé que dans l'apex de la crise en 2015. Il s'agit plutôt d'une crise politique. Et je veux dire par ça que pas seulement les États regardent ces problèmes sous l'angle de ses intérêts nationaux, ça c'est légitime, mais les regardent aussi sous l'angle de leur petite géopolitique interne. Et ça, ce n'est pas légitime. Donc, je crois qu'il faut dépasser cette division. Ce n'est pas facile. C'est une question vraiment complexe, pas seulement la dimension interne, comment sauvegarder nos frontières, mais aussi comment faire face aux problèmes réels, les causes.
Vous nous dites effectivement c'est une question politique et c'est pas n'importe quel pays qui a relancé le débat, c'est l'Italie qui est maintenant dirigée par une équipe populiste. Quel est le plus grand danger aujourd'hui en Europe? Cette vague migratoire qui en fait reflue ou cette vague nationaliste qui, elle, monte un peu à travers toute l'Europe?
C'est un complexe, c'est un problème très complexe. Il y a cette, renaissance des crises identitaires. Donc, il s'agit d'un problème réel. L'Italie, comme la Grèce ou l'Espagne, sont des pays, comme on dit, de première entrée, aux frontières de l'Europe. Donc, ils reçoivent des nombres de réfugiés ou des émigrés beaucoup plus élevés que les autres pays.
Sans le soutien de leurs partenaires européens.
Exactement. Donc, d'une part, c'est la solidarité. De l'autre part, on voit une montée d'un esprit de xénophobie. Et ça devrait nous inquiéter plus. Parce que si vous vous souvenez, dans la mi-guerre du siècle précédent, était exactement le prologue pour cette, monstruosité de fascisme dans notre continent. Donc, quand j'ai dit qu'il faut faire face d'une façon politique, j'ai fait référence aux valeurs de solidarité, mais aussi aux valeurs des droits de l'homme qu'il faut respecter.
Alors précisément, l'une des solutions qui est le plus clairement avancée, c'est de multiplier les pactes migratoires avec les pays tiers de l'Union européenne. Il y a eu un pacte migratoire semblable avec la Turquie en 2016 qui vous a arrangé parce que c'est vrai que ça a freiné le flux très nettement. Mais aujourd'hui, on constate que ça a aussi peut-être renforcé le poids politique de Recep Tayyip Erdogan. Est-ce que c'était une bonne idée?
Ça dépend. Si on a comme vrai rationnel de ces politiques d'aider les pays de l'Afrique ou de l'Asie d'avoir une croissance économique et garder leurs citoyens dans leur patrie, c'est une bonne politique. Ce qu'on a fait avec la Turquie, c'est une chose différente. On a essayé de trouver une solution partielle afin de régler les grands flux immigratoires. Il était nécessaire, mais ce n'est pas exactement le même comme ce qui est le plus important, essayer de trouver une vraie solution aux causes de l'immigration, qui est vraiment exactement les inégalités économiques, cette pauvreté extrême qui règne encore dans des pays d'Afrique ou des pays d'Asie.
Alors, pour faire retomber la pression, la Commission propose des solutions très concrètes, des centres de débarquement hors d'Europe. On externalise un petit peu la politique migratoire de l'Europe. Et les pays potentiellement susceptibles d'accueillir ces centres n'en veulent pas. C'est le cas de la Tunisie, c'est le cas de l'Albanie, c'est le cas de la Libye. Alors, est-ce que c'est vraiment une proposition sérieuse? Et dans quel pays est-ce que ces centres pourraient être mis en place?
Ce sont des palliatifs, pas des vrais remèdes au problème. Je viens de dire un problème global. Donc, il faut faire face à ce problème d'une façon globale. Qu'est-ce que je veux dire par cela? D'abord, il faut renforcer le contrôle dans notre frontière. OK, pas de problème. Mais après ça, il faut trouver une façon de redistribuer, de relocaliser, comme on dit au jargon technique, un nombre excessif qui entre dans les pays de première entrée. Donc, il faut à la fois avoir des politiques concrètes, mais aussi changer les règles européennes qui existent maintenant, ce traité de Dublin qui, en effet, oblige les pays de première entrée d'avoir un fardeau beaucoup plus excessif que si ce fardeau a été distribué d'une façon plus juste parmi tous les pays européens.
Alors, cela dit, vous dites redistribuer, relocaliser, etc. C'est bien ce qui est en cause. Les pays de l'Est ne veulent pas entendre parler du tout de ce fameux plan de relocalisation. Ni Viktor Orban en Hongrie, ni la Pologne qui s'y oppose farouchement. Qu'est-ce qu'on fait pour déclencher leur adhésion?
Mais pour cette raison, j'ai parlé d'un problème politique. Il n'y a pas de réfugiés. Il n'y a pas un grand nombre de réfugiés ni à Pologne ni à l'Hongrie. Il y a seulement cette position politique qu'il faut bâtir une Europe fortress qui ne devrait pas laisser les musulmans ou ceux qui sont des autres entrer dans notre continent. Ça, ce n'est pas la voie européenne. Donc, la position grecque, et je crois que aussi la position européenne et que la migration n'est pas un problème national, c'est un problème européen. Et là aussi, la dimension très importante de garder l'Europe unie, mais unie sur ses valeurs propres. Pas abandonner les droits de l'homme, les libertés, cette ouverture qui a toujours existé dans notre continent.
Alors justement, on voit que le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, accuse les ONG d'entretenir le trafic, hein, et il veut évincer les bateaux des ONG hors de la Méditerranée. Est-ce que ça, c'est conforme aux valeurs européennes?
Il est évident que les valeurs européennes imposent le respect des droits internationaux, mais aussi de la solidarité entre les êtres humains. Peut-être il y a quelques cas dans lesquels des NGO n'ont pas respecté les règles qui existent dans les droits internationaux. Mais il ne faut pas généraliser, il ne faut pas parler de l'entière de cet, disons, esprit de volontarisme, qui est aussi important pour aider les États à faire face au problème.
Alors, il y a certains États, aider les États, certains sont en difficulté interne. Vous avez parlé de cette politique interne. L'Allemagne agit comme un aimant sur les migrants et la chancelière est malmenée par son ministre de l'Intérieur qui est issu des rangs de la CSU, le parti bavarois frère normalement, mais qui la conteste sur cette question migratoire. Elle veut signer des accords bilatéraux avec un maximum de pays pour reprendre une partie des demandeurs d'asile. Alexis Tsipras a été le premier à dire, ah ben moi je suis d'accord. Pourquoi? Il faut sauver le soldat Merkel?
Non. Pour nous, la solution doit être une solution européenne. Mais en attendant cette solution globale, on peut aider quelques pays avec des accords vraiment partiels, frontalières. Mais ça, il ne s'agit pas de la solution du problème, il s'agit seulement de régler un petit peu les pressions, à la fois politiques ou s'il existe à l'avenir un nouveau flux migratoire, un problème réel.
Alors, Georges Catrougalos, il y a tout de même une bonne nouvelle dans cette Europe. Eh bien, c'est la résurrection de votre pays, dont tout le monde parle dans la presse internationale. La Grèce, donc, s'apprête à sortir enfin des trois plans de sauvetage successifs administrés parfois dans la douleur, par la Troïka. Alors tout de suite, dans ce reportage, des précisions sur les dispositifs de sortie de crise. C'est signé Nathan Tess.
La Grèce semble voir le bout du tunnel. Une croissance enfin positive en 2017, 1,4%, et surtout un accord européen pour sortir des plans de sauvetage. Euclide Tsakalotos, ministre des Finances grecques.
Je dois dire que le gouvernement grec est satisfait de cet accord. Nous considérons que la dette est maintenant viable. Nous pouvons maintenant avoir accès au marché.
Les 19 pays de la zone euro ont âprement négocié, le 21 juin, une fin de tutelle contenant deux points clés. L'allongement de la durée de remboursement de la dette grecque et 15 milliards d'euros de nouveaux crédits immédiats. Des mesures qui permettront à Athènes de retrouver une santé économique à la sortie de son troisième plan de sauvetage en août. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières.
Enfin, après 8 années de réformes difficiles, d'ajustements difficiles, la Grèce sera capable de voler de ses propres ailes.
L'économie grecque se retrouve en régime de liberté surveillée. Elle sera auditée tous les 3 mois et a promis aux Européens un excédent budgétaire primaire jusqu'en 2060. Une contrainte qui fait douter même la très rigoriste Allemagne. Au total, le pays a bénéficié de plus de 273 milliards d'euros de prêts en 8 ans. Il est désormais le dernier pays à sortir d'un programme d'assistance après l'Irlande, le Portugal et Chypre.
Georges Katrougalos, on l'a compris, la fin des plans de sauvetage, cela ne rime pas encore pour les Grecs avec la fin de l'austérité.
Exactement, parce que dans toute l'Europe règne maintenant ce même esprit d'austérité. Il n'est pas bien bon ni pour les sociétés, ni pour l'économie. Mais c'est vrai aussi qu'en Grèce, on a tourné la page. Et il était temps, hein? On a perdu presque 27% de notre richesse nationale. L'un tiers des Grecs est maintenant au-dessus du seuil de pauvreté. On a beaucoup souffert. Maintenant, on gagne à nouveau notre souveraineté démocratique. On a la possibilité, comme des autres pays qui sont sortis de ces programmes de sauvetage, comme le Portugal, comme l'Irlande, comme Chypre, de développer notre moyen afin d'avoir une croissance qui ne serait pas limitée seulement aux riches, mais à toute la population grecque.
Alors précisément, puisque ça a été le maillon faible de la zone euro à votre pays, est-ce que vous soutenez les réformes de la zone euro proposées par Emmanuel Macron, notamment un budget propre de la zone euro pour renforcer à la fois la convergence et la solidarité? Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir, surtout dans l'ambiance qu'on a décrite plus avant?
Mais il est absolument nécessaire, parce qu'en Europe, on n'a pas seulement des inégalités au sein de nos États, on a aussi des inégalités très fortes parmi les États. Et ça, c'est le produit de cette gouvernance économique qui est ni démocratique, ni vraiment profitable à ce peuple. Un premier pas, exactement, la démocratisation de la gouvernance économique. Donc, nous supportons les propositions du président Macron pour avoir, par exemple, un ministre des Finances qui était politiquement responsable devant le Parlement européen. Mais il faut continuer aussi par changer le paradigme, l'exemple qui est dominant maintenant, et passer d'une austérité néolibérale à des politiques vraiment sociales. En effet, pour le décrire en un simple mot, retourner au modèle européen social qu'on avait pendant toutes ces décennies après la Seconde Guerre mondiale.
Mais il y a quand même une majorité de pays, 12 pays de la zone euro, qui n'en veulent pas, notamment les Pays-Bas, mais aussi on retrouve des pays baltes. Comment faire pour les convaincre?
Ça, c'est vraiment un problème. Ce qu'on propose est d'avoir une nouvelle alliance politique, une alliance politique progressiste. C'est-à-dire, pas seulement la gauche. La gauche, c'est minoritaire en Europe. Mais la gauche, les politiques de la social-démocratie, les écologistes, ceux qui ne sont pas parmi la gauche, comme le président Macron, mais qui a compris qu'il faut changer les règles en Europe, peuvent bâtir une nouvelle alliance qui sera le nouveau pouvoir en Europe.
Alors, ça veut dire que Syriza et En Marche pourraient faire campagne ensemble pour les européennes ?
Ce qu'on a essayé d'être le catalyseur d'une alliance progressiste, comme je viens de décrire. Je crois que le meilleur exemple est dans le Parlement européen, où on a essayé de former exactement cette alliance entre la gauche, la social-démocratie et les Verts. Un autre pays qui est, je crois, exemplaire dans ce sens-là est aussi le Portugal. C'est ça qu'on envisage comme l'alternative en Europe.
Alors, il y a effectivement une autre bonne nouvelle pour les Grecs en particulier. Athènes et Skopje ont enfin trouvé un accord sur le nom de l'ex-république yougoslave de Macédoine, qui va s'appeler la République de Macédoine du Nord. C'était votre condition pour aider les négociations d'ouverture pour ce pays qui frappait à la porte de l'Union européenne. Elle ne les a pas obtenues quand même. C'est repoussé d'un an. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
Écoutez, les Balkans sont une région exemplaire de tensions identitaires et de chauvinisme. Je ne parle pas de nationalisme ou de patriotisme. Donc, nous, comme une force de la gauche, une force progressiste et une force aussi patriotique, on voudrait trouver une solution. Et on avait aussi de la chance, parce que le premier ministre de la Macédoine du Nord, voulait aussi un accord. Et on a réussi exactement cet accord gagnant-gagnant, qui, en respectant les identités de tous les deux pays, à trouver une solution vraiment viable.
Mais c'est encore fragile, puisqu'on voit que le président de la Macédoine du Nord veut rejeter ce nom. Et puis on voit aussi chez vous, en Grèce, que le parti avec lequel vous gouvernez, ANEL, le parti souverainiste, n'est pas vraiment d'accord. Il y a eu des défections au Parlement. Vous ne craignez pas que cet accord soit très vite remis en cause dans les prochains mois?
Non, je crois que le peuple dans les deux pays vont supporter cet accord. Ce n'est pas une surprise que les cercles nationalistes sont contre cet accord-là. Ce qui m'a étonné, en Grèce au moins, c'est que même les anciens partis social-démocrates, PASOK, et les partis de la Nouvelle Démocratie, les conservateurs, sont aussi contre cet accord. Bien qu'auparavant, ces deux partis étaient pour une solution pareille.
Ça rétrécit votre majorité quand même. Vous n'avez pas peur que le gouvernement de Tsipras tombe, justement?
Non, pas du tout. Exactement parce que le peuple grec comprend qu'il faut rester au pouvoir jusqu'aux élections afin de remplir notre mission. Et notre mission était d'abord de libérer la Grèce de ce carcan de programme de sauvetage. Ça, c'est déjà fait. Mais aussi, on a une autre mission de faire des guerres avec les intérêts politiques et économiques qui, en Grèce, formaient un système vraiment kleptocratique, on pourrait dire, auparavant.
Après avoir été le problème de l'Europe, je cite Alexis Tsipras, votre Premier ministre, la Grèce est la solution, un pilier de stabilité européenne. Pourquoi, comment et pour faire quoi?
Parce qu'on vient de dire qu'il y a un des problème le plus grand en Europe, exactement cette explosion nouvelle de guerre d'identité. Et on a aussi essayé, avec succès, de trouver une solution dans un problème qui, par décennies, le problème entre nous et la Macédoine du Nord, était un exemple de cette guerre d'identité. Et pas seulement ça, on essaie de libérer notre pays au fur et à mesure du possible, exactement, parce que pour nous, la signature de ce programme de sauvetage était un compromis. Ce n'est pas notre politique, ce que nous adaptons par ce programme de sauvetage. Mais même, dans ces conditions vraiment difficiles, on a donné des batailles pour supporter les plus vulnérables. Et pour cette raison, il faut achever notre œuvre gouvernementale.
Merci d'avoir été notre invité, Georges Katrougalos.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de Radio France Internationale ou bien sur France 24.